Une journée spéciale, merveilleuse, parce qu'on a 6 personnes qui vont se faire baptiser aujourd'hui dans l'eau. Et donc, toute la réunion, dans le fond, on veut consacrer à ce temps de célébration. C'est un temps merveilleux et important. Je vais partager des principes de la parole de Dieu avec vous. Puis, on va demander aux jeunes de se préparer par la suite et pour le baptême. Et ça va être vraiment, vraiment bien. Mais avant d'aller dans la parole de Dieu, ici à la vie complète, on aime faire une déclaration de la foi. Parce que la Bible nous enseigne que ce qu'on croit de notre cœur et qu'est-ce qu'on dit avec notre bouche s'accomplit. En fait, Dieu dit en Romains chapitre 10, verset 9 et 10, que si tu confesses avec ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu a ressuscité des morts, que tu seras sauvé. Donc, on voit, on parle avec la bouche les paroles que nous croyons dans notre cœur et les choses s'accomplissent. Jésus a dit, en vérité, je vous le dis, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute pas dans son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrivera, il le verra s'accomplir. Hein? Il y a un autre verset de la parole de Dieu qui dit, j'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé. Donc, il y a vraiment une puissance de Dieu quand on croit quelque chose dans le cœur et quand on le dit avec la bouche, il y a la puissance de Dieu qui est relâchée dans notre vie. Soit pour le salut, soit pour les réponses à nos prières ou quoi que ce soit, c'est les principes spirituels et bibliques. C'est pourquoi on aime, avant de recevoir les prédications de la parole, faire cette déclaration. Si vous avez une Bible avec vous, je vous invite à prendre votre Bible dans vos mains. Si vous n'avez pas de Bible, vous avez sûrement reçu une feuille à la porte. Et avec cette feuille, il y a presque tous les versets qu'on va lire ensemble aujourd'hui qui sont écrits là-dessus. Mais prenons cela, on va dire ceci. Voici ma Bible. C'est la parole inspirée de Dieu. Je suis ce qu'elle dit que je suis. Je possède ce qu'elle dit que je possède. Et je peux faire ce qu'elle dit que je peux faire. Je vais maintenant recevoir la semence incorruptible de la parole de Dieu. Je ne serai jamais plus pareil. Mais je serai pour toujours et à jamais changer de gloire en gloire dans l'image de Jésus-Christ. Amen. Ça, c'est une bonne prière, une bonne déclaration de la foi. Donc, aujourd'hui, j'aimerais vous inviter à aller avec moi dans vos Bibles à Matthieu chapitre 28. Et on va parler d'une nouvelle vie en Jésus-Christ. Vous savez qu'être chrétien, ce n'est pas une religion. Il y a beaucoup de personnes qui ont de la difficulté à comprendre que quand on parle d'être chrétien, quand on parle d'être né de nouveau, comme Jésus a dit que si vous n'étiez pas de nouveau, vous ne pouvez pas voir le royaume de Dieu. C'est Jésus-Christ qui a formulé ces paroles pour la première fois. C'est Jésus qui parlait de la nouvelle naissance. Et il y a beaucoup de personnes qui ont de la difficulté à comprendre que quand nous parlons d'être chrétien, d'être né de nouveau, d'accepter Jésus-Christ, que nous ne parlons pas de la religion, mais on parle d'une relation avec Dieu. On parle pas, on n'invite pas les personnes à devenir membre d'une organisation ou d'une église locale, mais on invite tout le monde, en fait, comme Jésus dit, aller dans tout le monde et prêcher l'évangile, la bonne nouvelle à chaque création, à chaque créature. Et qu'est-ce qu'on invite le monde à faire? C'est tout simplement d'ouvrir leur cœur à Jésus-Christ et de recevoir Jésus-Christ comme sauveur, comme Seigneur et comme maître de leur vie personnelle. Et dès qu'une personne confesse que Jésus, tu es mon maître, tu es mon sauveur, tu es mon Seigneur, je crois de tout mon cœur que tu étais crucifié pour moi, que tu étais enterré pour moi et que tu es ressuscité le troisième jour. Je crois de tout mon cœur et aujourd'hui je suis prêt à te suivre. Aujourd'hui je te donne ma vie. J'accepte ton sacrifice, j'accepte ton pardon dans ma vie. Dès qu'une personne prie une prière comme cela, automatiquement, instantanément, le Saint-Esprit entre dans le cœur de cette personne et fait de cette personne une nouvelle création. La Bible dit qu'il est né de nouveau et que si vous êtes en Jésus-Christ, vous êtes une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. Donc, ce n'est pas une question d'aller dans n'importe quelle église Bon, comme j'ai toujours dit, vous pouvez aller chez McDo, vous asseoir chez McDo, même vous coucher chez McDo, rester une semaine à McDonald's sans jamais quitter, mais vous n'allez pas devenir un hamburger. Vous êtes d'accord? Essayez un mois de temps, une année de temps, et vous n'allez pas devenir un hamburger. Jamais, jamais, jamais. Même pas une croquette de poulet, hein? Vous serez qu'est-ce que vous êtes. Même chose, une personne peut venir dans cette église pendant 10 ans de temps. Une personne peut aller dans n'importe quelle autre église pendant des années et des années sans être un chrétien aussi. Qu'est-ce qui est important? C'est pas une religion. Une personne peut prier sans être un chrétien. Une personne peut faire des bons gestes d'amour, peut donner des choses aux pauvres sans être un chrétien. Pour être un chrétien, il faut avoir Christ dans notre cœur. Pas dans notre tête, mais dans notre cœur. Pas juste croire ici que oui, je crois que Jésus est le Fils de Dieu, parce que la Bible dit, Jacques a dit dans la Bible, que oui, tu crois que Dieu est un, mais le diable aussi, il croit. Vous savez que le diable, il croit en Dieu aussi? Le diable croit que Jésus est le Fils de Dieu, il est convaincu, il sait, il a peur de lui. Mais il n'est pas sauvé, il n'est pas un chrétien, le diable, hein? Vous êtes d'accord, hein? Et nous aussi, on a besoin de savoir que connaître Jésus, c'est pas une question d'avoir de la religion ou de faire partie d'un groupe. Il y a des sectes qui vont vous dire que si vous ne faites pas partie de notre groupe, vous ne pouvez pas aller au ciel. Laisse-moi vous dire tout de suite, quelqu'un qui vous dit une chose de même, c'est un secte, il faut être méfiant. Mais quelqu'un qui prêche l'Évangile, comme Jésus nous a demandé de prêcher l'Évangile, va inviter le monde entier à venir par la foi et accepter par la foi le don gratuit du salut qui est en Jésus-Christ. Amen. Le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus. Ce n'est pas une église qui sauve, c'est Jésus qui sauve. Et quand on confesse Jésus comme sauveur et maître, et quand on croit dans nos cœurs qu'il est ressuscité des morts, on est né de nouveau, Jésus vient vivre en nous. Et c'est sûr que par la suite, il nous demande de nous assembler avec d'autres chrétiens. C'est pourquoi l'église locale est importante. Amen. Il faut être dans une bonne église. Mais comme je dis, chaque personne va être placée là où le Seigneur veut les placer, dans les églises. On ne peut jamais dire que notre église c'est la seule, ça serait la folie pure et simple, n'est-ce pas? Mais regardons bien. Ici, on a dans les Écritures, Matthieu chapitre 28, Jésus a dit quelque chose. Est-ce qu'il y a des personnes ici qui sont convaincues que Jésus est le Fils de Dieu? Est-ce que vous croyez que Jésus avait raison quand il parlait? Jésus s'étant approché, leur parlant ainsi, c'est Matthieu 28, 18. « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. » Tout pouvoir appartient à Jésus. Et qu'est-ce qu'il a dit? Allez, il parle à ses disciples. Allez, faites de toutes les nations des disciples. Les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Il a dit à Marc chapitre 16, lisons ces choses ensemble. Mais écoutons, Marc 16, 15, Jésus qui parle encore, il dit, puis il leur dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle. N'est-ce pas une bonne nouvelle? Qu'est-ce que nous avons mérité? C'était l'enfer. Si on était récompensé pour nos œuvres, pour qu'est-ce que nous avons fait ici sur la terre, qu'est-ce qu'on aurait tous mérité? C'est l'enfer. Mais qu'est-ce que nous avons hérité par la foi, hein, comme un don gratuit? C'est la vie éternelle en Jésus. Ça, c'est une bonne nouvelle. Quelqu'un d'autre a pris votre place. C'est comme un criminel qui est condamné à la prison ou un condamné à la mort pour un crime qu'il a commis. Mais une autre personne arrive en disant devant le juge, « Non, 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 envoie pas ce monsieur en prison, je suis là pour prendre sa place. » C'est exactement ce que Jésus a fait pour nous. Jésus est venu, il a pris notre place. C'est nous qui avons mérité la mort. Donc, c'est pourquoi on a besoin de prêcher cette bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Donc, vous voyez, il y a deux choses qui sont marquées ici. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Donc aujourd'hui, on a 6 personnes qui ont cru en Jésus. Et ils ont cru jusqu'au point où ils ont donné leur vie à Jésus. Ils ont confessé que Jésus est leur Seigneur et leur Maître. Et maintenant, ils sont prêts à faire cette deuxième partie. Ils sont prêts à se faire baptiser en obéissance à Jésus. C'est Jésus qui a dit, celui qui croit et qui sera baptisé sera sauvé. Peut-être il y a des personnes ici qui posent la question, mais pourquoi est-ce que des adultes vont se faire baptiser? Il y a même, j'imagine que la plupart de ces personnes, les adultes, ont déjà été baptisés peut-être dans certaines d'autres dénominations en tant qu'enfants, nourrissons. Laisse-moi vous dire, moi aussi, quand j'avais, je ne sais pas, quelques mois seulement, mes parents m'ont amené dans une église et m'ont fait baptiser. Sauf qu'il y a une chose, je ne m'en souviens pas du tout de cette journée-là. Sauf que j'ai, dans un petit livre avec quelques photos de bébés, j'ai vu une photo qu'ils ont prise de moi la journée de mon baptême. Tu comprends? Mais Jésus a dit, pour être baptisé, avant d'être baptisé, il faut faire quoi? Il faut croire. Et je remercie le Seigneur que mes parents avaient une certaine croyance, ils étaient plutôt religieux qu'autre chose à l'époque, mais vous savez, ce n'était pas une chose personnelle pour moi. J'avais pas cru en Jésus à l'époque. Donc, c'est pourquoi, à 9 ans, en fait, ma mère, la même mère qui m'a emmené à l'église pour me faire baptiser, à 9 ans, mon père a quitté la maison et il nous a laissés. Il y avait un divorce assez traumatisant et laisse-moi vous dire une chose, ma mère était un peu dévastée, un peu beaucoup. Et j'ai vu que ma mère a fait une grosse dépression, elle avait de la misère à travailler. C'était un professeur d'école, une femme instruite qui était très sérieuse, mais elle avait de la difficulté à fonctionner pendant un certain temps parce qu'elle avait la religion sans une relation avec Jésus. Et un jour, elle est allée, et en parlant avec un agent d'assurance, son agent d'assurance a vu la misère de ma mère et commencé à témoigner. Tu sais, tu peux connaître le Seigneur Jésus d'une façon personnelle. Ce n'est pas une question d'aller à l'église, mais tu peux vraiment avoir une relation avec lui. Donc, elle a rencontré Jésus pour vrai. Et je m'en souviens, j'avais 10 ans, elle est rentrée à la maison, elle rayonnait de joie, et c'est comme ça, ce n'est pas la même mère que j'avais il y a une semaine. Et moi aussi, j'ai voulu la même chose, et j'ai donné ma vie à Jésus-Christ. Et quelques temps après, j'ai pris une décision parce que j'avais cru de me faire baptiser dans l'eau, en obéissance à Jésus. Et vois-tu, c'est pourquoi nous, à l'église ici, qu'est-ce qu'on fait? On ne fait pas les baptêmes pour les nourrissons. On fait comme la Bible nous indique, comme Anne a fait avec Samuel. On fait une présentation, une consécration de nos enfants devant le Seigneur. Et dans le fond, c'est une occasion pour les parents de s'engager à élever leurs enfants dans le Seigneur, de les éduquer dans les voies du Seigneur. Et une fois que l'enfant est assez grand pour prendre sa propre décision de donner sa propre vie à Jésus et de prendre une décision personnelle de se faire baptiser, l'enfant est baptisé. Amen. En fait, j'ai un de mes fils aujourd'hui qui va se faire baptiser. C'est lui qui a dit, moi, je veux me faire baptiser. Et c'est merveilleux. C'est merveilleux, n'est-ce pas? Mais en Actes chapitre 8, c'est important parce que c'est pas souvent qu'on voit ces versets, mais c'est important de les voir. On sait que même Philippe, dans les Actes des apôtres, en Actes chapitre 8, c'est pas dans vos notes ce verset-là, mais Actes chapitre 8 nous donne l'histoire d'un homme qui s'appelle Philippe, qui était un évangéliste. Il est allé dans une ville prêcher et toute la ville a donné leur vie à Jésus. Et tout le monde était baptisé. Et puis le Seigneur l'a envoyé dans le désert et il a rencontré un homme, un Éthiopien. C'était un homme qui travaillait dans les politiques, on pourrait dire, un eunuque qui travaillait pour les chefs de son pays. Et on voit que Philippe commençait à témoigner, de parler de Jésus à cet homme. C'était un homme qui craignait Dieu, un homme qui lisait l'Ancien Testament, le livre d'Ésaïe, mais il ne connaissait pas Jésus. Et Philippe a commencé à prêcher Jésus. Le monde a besoin de connaître Jésus. Vous êtes d'accord? Et il dit, comme il continuait, verset 36, comme il continuait leur chemin, ils rencontrèrent de l'eau. Et l'eunuque dit, voici de l'eau, qu'est-ce qui empêche que je sois baptisé? Et Philippe dit, si tu crois de tout ton cœur, cela est possible. Est-ce que tu as lu cela? Si, tout le monde dit si. C'est conditionnel. Si tu crois de tout ton cœur, cela est possible. L'eunuque répondit, je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Et il fit arrêter le char. Vous savez, ils ont eu des autos là, hein? Il fit arrêter le char. Non. Philippe et l'eunuque descendirent tous deux dans l'eau et Philippe baptisa l'eunuque. Et quand ils furent sortis de l'eau, l'Esprit du Seigneur enleva Philippe et l'eunuque ne le vit plus, tandis que joyeux, il poursuivait sa route. Mais je ne pense pas qu'aujourd'hui, quand je fais le baptême, que je vais disparaître tout de suite après. On ne sait jamais. Non. Parce que j'ai encore des choses à faire ici. Mais on voit qu'il est essentiel, avant d'être baptisé, il faut croire de tout son cœur. Il faut croire de tout son cœur. Et un dernier verset, ici dans vos notes, un passage en Romains chapitre 6, dans la parole vivante, que j'aimerais vous lire, pour expliquer le pourquoi. Pourquoi est-ce que Jésus veut qu'on soit baptisé? Pourquoi? Parce qu'il faut comprendre que croire en Jésus, c'est pas assez. Juste croire qu'il existe, avoir un assentiment intellectuel, ce n'est pas assez. Il y a beaucoup, beaucoup de gens que si on ferait un sondage aujourd'hui dans la ville de Drummondville, on demanderait, est-ce que vous croyez en Jésus-Christ, que Jésus existe? Il y a beaucoup qui vont dire, oui, je crois que Jésus existe. Mais est-ce que ces personnes connaissent Jésus? Est-ce que vous croyez que le premier ministre du Canada existe? Mais est-ce que vous le connaissez personnellement? Beaucoup de gens croient que Jésus existe, mais ils ne le connaissent pas personnellement. Et qu'est-ce que Jésus veut? Il veut qu'on entre en relation avec lui et que notre relation soit scellée en lui, dans le sens qu'on confesse avec notre bouche, on croit dans notre cœur, et puis dans le baptême, on est capable de faire une démonstration publique. On confesse même publiquement que nous n'avons pas honte de Jésus et que nous voulons être identifiés avec Jésus dans les eaux de baptême. Parce que dans le baptême d'eau, on est identifié avec Jésus dans trois domaines. On est identifié avec lui dans sa mort. Jésus fut crucifié, n'est-ce pas? Il était cloué à la croix pour mes péchés, pour vos péchés. Il est mort pour mes péchés et pour vos péchés. Et la Bible dit que nous sommes morts avec lui. L'apôtre Paul a dit, j'ai été crucifié avec Jésus-Christ. Ce n'est plus, mais pourtant je vis, mais ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Donc, on reconnaît que l'homme que j'étais avant, le pécheur séparé d'avec Dieu, est maintenant crucifié, cloué à la croix avec Jésus. Et je dis, je suis identifié avec Jésus, crucifié avec lui dans sa mort. Puis, par la suite, quand on va dans les eaux, et pourquoi est-ce qu'on va baptiser par immersion? Il y a plusieurs raisons bibliques pour cela. Parce qu'on voit dans les Écritures, c'était comme ça qu'ils ont fait les baptêmes. Ils sont descendus dans l'eau. Le mot baptiser dans le grec veut dire littéralement de tremper, comme on va prendre un tissu pour mettre de la couleur, on va le tremper, puis on va l'enlever, ça va changer de couleur. Même chose. On va dans les eaux de baptême et on sort une nouvelle création. On est identifié avec Jésus dans sa mort, dans son enterrement. En fait, le baptistère représente un genre de tombeau. On est enterré avec Jésus. Et de la même façon que Jésus fut ressuscité après 3 jours et 3 nuits dans le tombeau, nous aussi, nous sommes identifiés avec Jésus dans sa résurrection pour marcher en nouveauté de vie. Je dis que l'homme que j'étais avant n'existe plus. Le pécheur que j'étais, le pécheur qui ne connaissait pas Dieu, qui n'était pas en relation avec Dieu, cet homme n'existe plus. Il fut crucifié, enterré, mais maintenant je suis ressuscité et je marche en nouveauté de vie. Vous savez, ce n'est pas une question de dire, oui, je crois que Jésus existe, je vais faire mon affaire, je vais vivre comme je veux vivre. Si quelqu'un est vraiment chrétien, il va vivre pour Jésus. Amen. Donc, on va lire ce passage dans la parole vivante. C'est un peu long, mais je vous invite à lire avec moi parce que c'est vraiment puissant. Romains 6, 1 dit, « Quelle conclusion tirerons-nous de tout cela? Dirons-nous comme certains, continuons donc à pécher, afin que la grâce de Dieu puisse s'exercer pleinement et qu'elle en apparaisse encore plus glorieuse. » Vous savez, il y a certaines personnes qui ont dit, « Si vraiment nous sommes sauvés par la grâce, pourquoi pas juste continuer à pécher, vivre une mauvaise vie, faire toutes sortes de bêtises, parce que la grâce de Dieu va être plus glorieuse, non? » Il dit, « Nous faut-il demeurer dans le péché? » La réponse est non. Verset 2, « Certes, non. Puisque nous sommes morts au péché, nous n'existons plus pour lui. » Je n'existe plus pour le péché. Et vous? Comment pourrions-nous vivre encore sous son empire? Auriez-vous oublié que tous les baptisés ont fait acte de mort au péché? Ou bien ne savez-vous pas que nous tous qui avons été immergés en Jésus-Christ, nous avons été plongés en sa mort? Verset 4. Par le baptême, nous avons donc été ensevelis avec lui afin de partager sa mort. Tout ce que nous étions autrefois est à présent mort et enterré. Tout ce que nous étions autrefois est à présent mort et enterré. Voici une bonne nouvelle. Et pourquoi cela? Vous savez que le Christ a été ressuscité d'entre les morts par la puissance glorieuse du Père. Nous aussi, nous avons reçu une nouvelle vie et nous sommes appelés à mener notre existence sur un plan nouveau. Savez-vous que nous sommes tous appelés à mener notre existence sur un plan nouveau? Oh, mais je pense qu'il y a des gens qui sont un peu trop sérieux quand ça vient au Seigneur Jésus. Mais la vie, la mort, c'est sérieux, n'est-ce pas? Devenir chrétien, c'est pas comme faire partie d'un club. C'est pas comme être dans le club optimiste ou quoi que ce soit. On rentre dans la famille de Dieu. Et on vit pour Jésus, n'est-ce pas? Verset 5. Car nous sommes devenus un seul et même être avec lui. Nous lui avons été incorporés comme le greffon à son porte-greffe. Si donc nous avons été implantés en sa mort pour mourir avec lui, nous le serons aussi en sa résurrection pour revivre comme lui. Comprenons donc que l'homme que nous étions autrefois a été cloué à la croix avec le Christ afin que le péché soit réduit à l'impuissance et que le corps, instrument docile du péché, soit neutralisé. Nous avons été crucifiés avec lui, avec le Christ, pour que le mal n'ait plus de prise sur nous et que nous n'ayons plus besoin d'obéir comme des esclaves à ses sollicitations. En mort et quitte envers le péché. Quelqu'un qui est mort est dégagé de sa responsabilité. Le mal a beau l'appeler, il ne répond plus. Donc, puisque nous sommes morts avec le Christ, nous croyons aussi que nous partagerons la vie du Christ en union avec lui, nous accéderons à la vie nouvelle. Vous savez, on ne parle pas d'une religion, on parle d'une relation avec Jésus. Nous sommes morts avec Jésus, enterrés avec Jésus et ressuscités avec Jésus. J'aime ça. En mort, est dégagé de sa responsabilité. Le mal a beau à l'appeler, il répond pas. Moi, il faut savoir qu'aujourd'hui, quand les personnes vont entrer quand ils vont être immergés dans l'eau, ils sont en train de dire, la personne que j'étais est clouée à la croix et enterrée avec Jésus. Et si le diable, si les désirs de ce monde m'appellent pour dire, pourquoi pas faire les choses que vous avez toujours aimé faire dans le passé, tel et tel péché, telle et telle habitude. Il a beau à l'appeler, mais il faut avoir cette image que non, c'est comme quelqu'un dans un cercle, dans un tombeau. On répond pas. On répond pas à le mal. Mais on répond à Jésus. On est mort à nos péchés et vivant pour Jésus. Et c'est fort, c'est puissant. Donc, trois choses, juste pour terminer aujourd'hui. Comment marcher en nouveauté de vie? Numéro un, marcher dans la lumière de votre nouvelle identité. Vous savez, c'est intéressant que dans la Bible, souvent, on voit que Dieu a changé les noms des personnes, n'est-ce pas? Il a changé le nom d'Abraham en Abraham, qui veut dire littéralement le père d'une multitude, le père d'une grande nation. Donc, Dieu a pris en veillant un homme qui n'avait plus la capacité d'avoir des enfants, un homme important, et il a dit, je change ton nom. L'homme que tu étais ne va plus exister. Maintenant, à partir d'aujourd'hui, tu vas t'appeler Abraham, père d'une grande nation. À chaque place où il allait, il disait, « Salut, je m'appelle le père d'une grande nation. » Ah oui, vous avez combien d'enfants? Mais à l'heure actuelle, on n'a pas d'enfants, on a juste... Mais je suis le père d'une grande nation. Dieu appelle les choses qui ne sont pas comme si elles étaient. Dieu a changé son nom. C'est intéressant, n'est-ce pas, que Saul de Tarse, Saul qui était un homme religieux, qui persécutait l'Église de Jésus-Christ, qui ravageait l'Église, qui mettait les chrétiens en prison, qui était zélé pour la religion. Tu parles d'un homme religieux, tu parles de Saul de Tarse. Quand ils ont lapidé Étienne, ils ont mis leur manteau au pied de Saul de Tarse. Saul est allé chercher les lettres pour avoir la permission d'aller dans les autres villes, comme la ville de Damas, juste dans le but de chercher tous ceux qui croyaient en Jésus pour les mettre en prison. Il était zélé, un religieux. Mais sur la route de Damas, il a rencontré Jésus, le Christ vivant, ressuscité. Et n'est-ce pas intéressant qu'on ne parle pas de l'apôtre Saul, on parle de qui? L'apôtre Paul. Changer son nom. Il avait une nouvelle identité. Il y a même une place, ce n'est pas dans vos notes, mais je vais le lire en 2 Corinthiens chapitre 7. C'est tellement intéressant que l'apôtre Paul, quand il parle à l'église de Corinthe, il dit quelque chose ici en 2 Corinthiens chapitre 7, je pense. Oui, 7 verset 2. C'est pas dans vos notes. J'ajoute des choses là. Verset 2, il a dit... « Donnez-nous une place dans vos cœurs. Nous n'avons fait tort à personne. Nous n'avons ruiné personne. Nous n'avons tiré profit de personne. » Intéressant. Et il y a des personnes qui auraient pu dire, « Mais Paul, tu mentis. Tu as dit que tu n'as fait tort à personne. As-tu oublié les personnes que tu as mis en prison? As-tu oublié Étienne, qui était un homme de Dieu que tu as lapidé? As-tu oublié tout le mal que tu as fait à l'Église avant de devenir chrétien? As-tu oublié ces choses? » Il était conscient d'une chose, que l'homme qu'il était avant fut cloué à la croix avec Jésus, enterré avec Jésus, et Paul était une nouvelle création. Saul était mort, Paul était un homme nouveau. Et vous, vous n'avez pas besoin de changer votre nom aujourd'hui. Mais dans notre cœur, on a besoin... de changer d'identité des fois. Et si vous n'êtes pas encore en Jésus-Christ, laisse-moi vous dire, il faut changer d'identité. Il faut être prêt à mourir à votre vie pour prendre la vie que Dieu vous offre. Amen. Ici, le verset que j'ai marqué, c'est « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, et voici toutes choses sont devenues nouvelles. » Numéro 2, donc on ne parle pas de marcher dans une nouvelle religion, mais une nouvelle identité. Je suis enfant de Dieu. Autrefois, j'étais enfant du diable. Autrefois, j'étais pécheur. Mais aujourd'hui, je suis la justice de Dieu en Jésus. Je suis enfant de Dieu. Je suis dans la famille de Dieu par sa grâce. Amen. J'aime mon identité en Christ. Et vous? Amen. Alléluia. Les problèmes avec l'estime de soi sont réglés quand on connaît notre identité en Jésus. Amen. Numéro 2, marcher dans la lumière de votre nouvelle nature. Vous savez, Dieu, quand il nous sauve et quand Jésus entre dans notre cœur, il ne dit pas juste, « OK, bon, maintenant, je vais vous reconnaître comme étant mon fils, tu es dans ma famille, je t'accepte dans ma famille. » Mais il change notre cœur, il change notre nature. Nous qui étions autrefois les pécheurs, séparés d'avec Dieu, qui avaient une nature, qui avaient un penchant vers le mal, un penchant vers les choses perverti ou quoi que ce soit. Maintenant, cette nature est enlevée et une nouvelle nature la remplace dans notre cœur. On a encore notre corps qui est infecté par le péché, et si on ne fait pas attention, on peut, même après avoir accepté Jésus, avoir le désir de faire le mal. Mais si on connaît notre nouvelle nature, on n'est plus obligé d'obéir à la chair pour accomplir ses désirs. Colossiens 3, 10 dans vos notes dit, « Et vous, vous êtes revêtus de la nouvelle nature. » Tout le monde dit la nouvelle nature. Vous voyez, ce n'est pas moi qui invente ces choses. C'est la parole de Dieu, c'est la Bible qui nous enseigne ces choses. De la nouvelle nature, vous êtes des êtres nouveaux que Dieu, notre Créateur, renouvelle continuellement à son image pour que vous le connaissiez parfaitement. Encore, ce n'est pas une religion, c'est une relation qui nous donne une nouvelle nature, une nouvelle identité. Et numéro 3, marchez dans la lumière de votre nouvelle raison d'être. Vous savez, autrefois, je marchais pour moi-même. J'avais mes buts, mes objectifs. Je vivais pour moi-même. Mais quand j'ai rencontré Jésus, Jésus m'a demandé de me repentir, tourner de bord. Maintenant, vous n'allez plus vivre pour vous-même, vous allez vivre pour Jésus. On se repent. J'ai une nouvelle orientation pour ma vie. J'ai une nouvelle raison d'être. Autrefois, je vivais pour mon propre plaisir. Maintenant, je vis pour le plaisir de Dieu. Et c'est marqué dans vos notes ici, 2 Corinthiens 5, 14 et 15, « Car l'amour de Christ nous presse, parce que nous estimons que si un seul est mort pour tous, tous donc sont morts, et qu'il est mort pour tous afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. » Donc Jésus nous appelle à vivre pour lui. Il est mort pour nous, vivons pour lui. En fait, il y a, dans le français courant, cette traduction est tellement bonne, c'est marqué que, afin que nous ne menions plus une petite vie égoïste, mais que nous puissions vivre vraiment pour lui. Autrefois, ma vie était une petite vie égoïste. Je vivais pour moi. Et maintenant, le Seigneur m'appelle à vivre pour Jésus, pour lui. Et quand on vit pour Jésus et lui, on vit aussi pour les autres dans notre entourage. Ce n'est plus une vie égoïste, c'est une vie remplie d'amour. Amen. C'est pourquoi ces gens vont se faire baptiser aujourd'hui. Ils vont s'identifier avec Jésus-Christ dans sa mort, son enterrement, sa résurrection pour marcher en nouveauté de vie. Si on peut avoir les musiciens qui vont venir, je vais demander à ceux et celles qui vont se faire baptiser, juste de venir ici en avant pour une minute. J'aimerais que ceux et les 6 personnes qui vont se faire baptiser, juste viennent ici en avant. Révision dans notre plan. J'aimerais prendre une photo de ces personnes avant qu'ils changent pour mettre la robe. On va voir l'avant et l'après, non. Vous pouvez vous mettre sur l'estrade ici. On va faire une photo. Ils sont beaux, hein? Donc, je voulais juste savoir. Je savais qu'il y avait une ou deux personnes qui voulaient donner juste dire un petit mot, un petit témoignage. Toutes ces personnes-là ont reçu Jésus comme Sauveur et Seigneur. Et vous avez tous accepté le Seigneur Jésus comme votre maître, n'est-ce pas? Donc, je pense que c'est Naomi qui voulait dire un petit mot. Est-ce qu'on peut avoir un micro? OK, elle a quelque chose d'écrit. Entre-temps, Eric a dit qu'il voulait dire un mot. Les autres ne sont pas obligés.